Aujourd'hui, c'est le 3 mars, donc on n'est pas très loin de la journée internationale des droits de la femme. Mmh. Donc on va faire une spéciale 8 mars, un 3 mars.
Okay.
Et j'ai avec moi deux femmes qui vont un petit peu partager des points de vue sur divers sujets, sur le foot, les femmes et tout ce qu'il y a autour. Donc je vais laisser se présenter, mais voilà, ma gauche est Coraline.
Salut Myriam.
Salut Coraline, bienvenue.
Merci.
Première à la radio,
ouais.
Voilà, il y a un début à tout.
Première à tout.
Donc je te laisse te présenter.
Merci beaucoup, Sada, pour me recevoir. Moi, c'est Coraline Kaya, je suis juriste, formatrice, et j'ai une structure qui s'appelle Projet Callisto, qui donne des solutions de prévention pour les organisations en matière de lutte contre les violences au travail, en particulier le sexisme et le harcèlement.
D'accord, super, gros projet.
Oui.
Gros chantier, j'ai envie de dire.
Gros chantier.
Super, merci Coraline d'être là. Et à ma droite, j'ai Manon. Salut,
oui.
Manon.
Salut Myriam.
Bienvenue, première à la radio aussi.
Ouais, première, okay. Aussi.
Ça va bien se passer. Et donc, je te laisse te présenter.
Ouais, alors donc moi c'est Manon, je suis membre du FLAM, qui est une association qui propose des créneaux de foot en mixité choisie. Donc FLAM, c'est pour foot, loisirs, Alpes en mixité choisie. Et c'est une asso qui a été créée en septembre 2022, donc toute récente.
Ah oui.
Et qui propose des sessions, notamment le jeudi soir au stade Bachelard à 18h, pour faire du foot en mixité choisie.
D'accord. Et du futsal le mardi soir avec soccer de rue.
Également. Soccer de rue et Big Bang Ballers.
Et Big Bang Ballers. Effectivement. Et ben voilà, moi je me présente aussi ou pas, Sana, tu crois?
Ouais, je pense, tu peux te présenter quand même un petit peu, comme toujours. Hein. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver tout juste sur les ondes de News FM, il ne connaît pas Soccer de rue, il ne sait pas c'est qui Myriam.
Non, ouais, pas de souci. Bah, moi c'est Myriam, donc j'ai fondé Soccer de rue il y a presque 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Et Soccer de rue, c'est une association qui a pour but de lutter contre l'exclusion par le foot, donc et à l'insertion, qu'elle soit économique, sociale, toutes sortes d'inclusion, et donc par la pratique du foot. Et depuis quelque temps maintenant, on a un créneau réservé aux femmes, on a une équipe féminine, on a représenté la France dans divers tournois internationaux, on a organisé un tournoi international à Grenoble, et voilà. Et l'idée de Soccer de femmes, c'est donner la parole aux femmes, en fait, pas que sur le terrain, mais aussi
En dehors du terrain. Magnifique.
Voilà.
Ce soir, on va s'éclater ici, puisque tu l'as dit, hein, Myriam, c'est... Quand on parle du mois de mars, on passe directement aux femmes, tu vois.
Ouais.
Après, des fois, je me dis, nous les hommes, on est un petit peu mal placés pour en parler, tu vois.
T'auras le droit de donner ton opinion, t'inquiète pas.
Je serai là.
Ouais, c'est ça, en fait, le 8 mars, et on a tendance à l'appeler la journée de la femme, et moi, ça m'hérisse le poil, je t'avoue. La journée de la femme, c'est... Ça veut tout rien dire. C'est, on parle de une journée pour les femmes, et ça veut dire quoi? 364 journées pour les hommes. Enfin voilà. Donc moi j'insiste, c'est la journée internationale des droits de la femme.
Ils ont tout pris.
Mais tu sais qu'il y a une journée des hommes.
C'est vrai.
C'est quoi la date?
Ouais, en novembre. Ouais, le 19 novembre.
Okay.
Parce que tu sais, Movember, tout ce qui se fait autour de la sensibilisation autour des maladies masculines, toutes ces choses-là. Donc c'est en novembre. Et on n'en fait pas.
Non.
Tout un plat.
Merci de nous apprendre ça là. Voilà. Je savais pas ça.
Non, tu sais, on est là pour parler des femmes et des femmes dans le foot. Donc c'est vrai qu'il y a des particularités. Le foot, c'est quand même vu comme un sport très masculin. Il y a des stéréotypes qui sont attachés à la pratique du foot féminin, etc. Et alors, on va peut-être commencer par parler des choses qui fâchent. Parce qu'il y a des choses qui fâchent. Et la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai préparé la chronique, c'était évidemment Luis Rubiales, qui a été condamné la semaine dernière, ou il y a deux semaines, enfin il n'y a pas très longtemps, donc le président de la Fédération espagnole de foot. Et je ne sais pas si vous avez vu...
Si, on a vu quand même ça, quand même c'était wow.
Voilà. C'était osé. Il a été condamné, d'accord. Alors il a été condamné, une amende, et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien, n'est-ce pas Coralie?
Oui. Alors oui et non. C'est sûr que déjà c'est une condamnation. Donc c'est quand même quelque chose qui est à saluer. Il faut quand même préciser que l'Espagne est beaucoup plus en avance que la France sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc il faudrait regarder par rapport aux condamnations en Espagne ce qu'il en est. Est-ce que cette amende à hauteur de 10 000 euros, elle est significative ou pas par rapport à ce qui se pratique là-bas. Une chose est sûre, c'est qu'en France, ce genre de condamnation, ça serait historique. D'accord. Parce que okay, ça n'est carrément pas quelque chose qui, dans la pratique, se voit beaucoup, en tout cas dans notre pays.
D'accord. Moi, c'est intéressant. Et ben, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment comment se manifeste un petit peu dans le monde du sport et en particulier dans le foot, hein, ce qui nous intéresse, ces violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est un phénomène plutôt visible ou est-ce que c'est plutôt un phénomène caché? Et bon, on va rester dans le cadre de la France, évidemment.
Alors, à l'image du reste de la société, il y a du visible et du non visible. On va avoir des blagues sexistes, on va avoir des commentaires graveleux, des injonctions, des jugements sur la tenue, sur les façons d'être. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au milieu du football en particulier, c'est un milieu qui est quand même traditionnellement masculin,
ouais,
où les femmes encore aujourd'hui ont besoin de faire leurs preuves. C'est toujours le
complètement,
cas.
Complètement, malheureusement.
On est quand même dans une spécificité d'un milieu avec une hiérarchie forte, avec une relation d'autorité entre les entraîneurs, les animateurs, les sportifs, avec encore une idéalisation des dirigeants, des entraîneurs. On le voit avec des figures, hein, du monde du football.
Ouais, c'est vrai.
Ce qui fait que on a tout un contexte où ce phénomène des violences sexistes et sexuelles est majoritairement invisible en raison d'une omerta, en raison de la peur des conséquences sur la carrière, peur de représailles, et aussi en raison, bah, comme j'ai dit, de cette idéalisation d'un certain nombre de figures, dont Rubiales, hein, on l'a vu, hein, pour rebondir sur ce que tu disais. Donc, on a des spécificités, mais comme dans le reste de la société, on a des violences sexistes et sexuelles encore majeures dans ces milieux-là.
Ouais, c'est intéressant. Il faudrait voir un petit peu, parce qu'on voit que bon, les présidents de fédération, en général, c'est des hommes. Si je ne me trompe pas, c'est à quasi-totalité, au moins en Europe, ce sont des hommes, y compris des fédérations féminines. J'avoue que là, je ne sais pas du tout, mais ce serait intéressant de regarder ça. Et ces fédérations, tu penses qu'elles sont... Comment elles sont préparées à prévenir ces violences? Est-ce qu'elles sont préparées? Comment elles sont préparées?
Alors,
sûrement des failles.
Oui, la prise de conscience, elle est récente, hein, et elle est souvent due à... Elles font souvent suite à des scandales, hein, qui ont médiatisé un certain nombre d'agissements. On est plutôt aujourd'hui dans une réaction à des faits commis que dans une démarche globale proactive de prévention. Ça, c'est certain.
Ouais.
Les failles qu'on peut identifier, elles vont être liées à un manque de formation. C'est pour ça qu'on a des lois. Si elles sont tardives sur le sujet. Mais on a aussi un manque de dispositifs de signalement existants. Et quand ils existent, ils manquent d'impartialité. Parce qu'on va avoir des conflits d'intérêts dans le traitement de ces signalements. Et puis, on a encore une prédominance de l'image, de la réputation, qui fait qu'on va plutôt enjoindre aux personnes de se taire, de prendre sur elles, etc.
Mais ça, ce n'est pas spécifique au foot?
Non.
Ouais, c'est le sport en général.
C'est le sport en général, la société en général. Hein, on le retrouve aussi dans le milieu du travail. Hein.
Ouais.
Mais on va avoir certains milieux dans lesquels ça va être plus ou moins important. Alors certains milieux, ça va être certains clubs, certaines fédérations. Mmh. On ne peut pas dire voilà le milieu du football, on l'estampille comme étant à la traîne, etc. Non, d'accord, c'est pas vrai. Ça va vraiment dépendre de certains clubs, de certaines fédés. Ouais.
D'accord. Et donc toi, ton job, c'est de travailler sur cette prévention.
C'est ça, et même sur la réaction, c'est-à-dire que l'idée, le nec plus ultra, c'est de travailler en amont, c'est-à-dire de mettre en place un certain nombre de dispositifs, de signalement, de former les équipes, les directions, les managers, etc. Mais aussi de pouvoir proposer un soutien global aux fédérations, aux clubs, aux entreprises, que ce soit en matière de formation, de mise en conformité à la loi, des dispositifs obligatoires, mais aussi d'enquête. Parce qu'on sait qu'on a dans les structures des obligations de conduire des enquêtes internes,
d'accord,
pour faire la lumière sur des faits de harcèlement, de sexisme, de discrimination.
Okay.
Et ça peut être difficile de conduire une enquête en interne parce qu'on a des risques quant à l'impartialité. Donc le fait de le confier à un organisme extérieur garantit cette neutralité. Et c'est donc ce que je propose dans le projet Callisto.
D'accord. Et tu as déjà proposé ça, tu as déjà intervenu dans des clubs sportifs?
Ça m'est arrivé une fois.
Ouais.
C'était un club de volley. Et c'était au tout début.
Féminin, masculin.
Masculin.
Ouais.
Alors, c'était mixte, hein, mais moi, en l'occurrence, c'était au niveau masculin. Et c'était au tout début que j'avais projet Callisto, donc bientôt 5 ans. Et j'étais intervenue pour de la formation sur ces sujets-là, par rapport à de l'accueil de public mineur, pour avoir des animateurs formés sur ces questions-là, ouais, d'aide au repérage notamment de situations.
Ouais, ouais, c'est super important. Moi, je me souviens quand j'étais, donc j'ai coaché une équipe de U9 quand j'étais à l'étranger, et donc de filles. Et c'était la volonté du club d'avoir uniquement des encadrantes et des coachs féminines, enfin des femmes, quoi, que les filles soient entourées uniquement par des femmes. Bon, en l'occurrence, la coach principale était la maman d'une des joueuses aussi, donc ça, je sais pas dans quelle mesure ça joue, mais voilà, c'était un petit peu leur façon aussi de travailler dans la prévention. Après, pas faire des raccourcis, mais voilà. Voilà, et justement ces petites filles et ces jeunes filles qui pratiquent le foot aujourd'hui et qui pourraient être confrontées à des comportements sexistes ou des violences, quels seraient tes conseils? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un comportement sexiste? Enfin, à quel moment on a franchi la ligne? Parce que bon, Robiales, il s'est affiché devant le monde entier. Voilà, c'est assez
flagrant. Il s'est pas caché du tout.
Mais à quel moment, nous, en tant que joueuses, voilà, dans un club, voilà, la ligne a été franchie?
C'est par exemple de dire à une femme, ah bah t'es de mauvais poil aujourd'hui, t'as tes règles ou quoi?
D'accord.
On est déjà de l'autre côté, là. On est déjà dans de l'agissement sexiste.
Ok.
Et en fait, on se rend compte qu'on y est très vite. On a forcément tous et toutes entendu un propos de ce genre-là, qu'on l'a peut-être même vécu, qu'on l'a peut-être même dit. En fait, à partir du moment où on renvoie une personne à ce qu'on appelle la sexualisation des rôles, c'est-à-dire une femme à la cuisine, un homme qui fait la mécanique, ce genre de choses, c'est des stéréotypes de genre. Et aujourd'hui, dans la loi, depuis 10 ans, c'est interdit.
D'accord.
Donc toutes ces choses-là, que ce soit au milieu professionnel ou dans les ensembles sportifs, c'est illicite.
D'accord, ok. Et donc, quels seraient tes conseils
Pour une personne qui serait victime?
Oui, une personne voilà, dans un club de foot, une jeune fille dans un club de foot, ou voilà.
Il faut en parler.
Il faut en parler, ouais.
Alors c'est très dur, hein, j'ai du mal à dire ça, mais il faut en parler. Parce que même si on est dans un contexte de défiance vis-à-vis de la libération de la parole, à l'heure où les dispositifs de signalement sont peut-être pas suffisamment bien utilisés, ou même dans un contexte où la justice peut être défaillante, plus on va en parler, plus ça va mettre le doigt sur ce phénomène qui existe. Et en fait, la pratique, la loi, la jurisprudence, elle évolue grâce aux témoignages. Plus il y aura de personnes pour dire que moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'en étais témoin, plus les choses vont avancer. Et donc c'est pas évident, mais il faut pouvoir trouver des personnes ressources, connaître les dispositifs existants en interne ou en externe, et puis alors surtout faire confiance à son ressenti. Un ressenti, c'est subjectif, c'est personnel. Et enfin, dernier point, c'est documenter une situation. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire recenser les dates, le contexte, les témoins présents, les éléments matériels qu'on a, des messages, des captures d'écran, des photos, parce que c'est ça aussi qui va permettre de rendre un ressenti matérialisé, objectif.
Bah, l'idéal serait d'avoir par exemple une espèce de référent VSS dans chaque club, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique qui tend quand même à s'étendre, notamment quand il y a une dimension d'entreprise où là les références sont obligatoires.
Ouais. D'accord. Merci pour cet éclairage, Coralie.
Je t'en prie.
Manon.
Oui.
Eh ben, je vais te donner la parole. Tu parlais du FLAM, de l'association, du club. Je ne sais pas comment vous définissez. Nous, on a du mal à dire qu'on est un club à soccer de rue. On est toujours une association.
Oui, c'est association
sportive. Et donc, tu parlais de la mixité choisie. Et donc, voilà. Qu'est-ce que c'est et pourquoi proposer un tel espace?
Alors, la mixité choisie, c'est un espace où on accueille toutes les personnes de tout genre, sauf les hommes cisgenres. Donc, une personne cisgenre, pour rappel, c'est les personnes qui se retrouvent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance.
D'accord.
Et donc, au FLAM, on est un espace où on accueille les personnes transgenres, les personnes non-binaires, les femmes cisgenres.
D'accord.
Voilà. Et donc, l'intérêt, entre guillemets, de proposer ce genre de créneau, et notamment pour le foot, c'est comme tu l'as très bien dit, socialement, c'est bien plus aisé de faire du foot et de s'y sentir à l'aise quand on est un homme que quand on est une femme, entre les deux, quoi, minorité de genre. Et donc, on propose ce genre de créneau pour se réapproprier un petit peu le foot, l'espace public, les stades, et montrer qu'en fait, on peut ne pas être un homme cisgenre et prendre du plaisir à jouer au foot. Et voilà.
Ouais, non, ça m'interpelle parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le foot, j'ai commencé adolescente, et en fait, il y avait soit des groupes mixtes, soit des groupes d'hommes. Et donc, bah voilà, on était un peu obligés. Moi, j'étais un peu obligée d'aller jouer avec les garçons, et ce qui plaisait pas forcément à mes parents. Forcément, le monde du foot, les garçons, ils tapent fort, ils frappent fort, ils se bagarrent, etc., etc. Donc, ça plaisait pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu, on se sentait pas trop en sécurité, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Donc, ce que vous proposez, c'est vraiment un endroit safe, quoi, un peu sécurisant tout pour les personnes et pour qu'elles puissent jouer.
Ouais. Et où. Ce qui n'est pas mis en avant, c'est tout l'aspect performance, score.
Mmh. Ouais.
Voilà, on essaye d'effacer au maximum ça pour mettre en place juste un moment de loisir où en fait on fait attention aux besoins des uns et des autres, ou des unes et des autres. Et en fait, on est très vigilante à ne pas reproduire les automatismes qu'il peut y avoir sur des terrains de foot et qui. En fait, qui reviennent très vite parce qu'on est socialement, on évolue là-dedans depuis enfant. Mmh. Mais en fait, en conscientisant ça, on arrive un peu à démanteler et à retrouver en fait tout ce plaisir de juste jouer, prendre du plaisir, faire un jeu collectif et voilà.
D'accord. Et vous avez combien d'adhérents, adhérentes ?
Il y a
participants, participantes.
Je pense qu'on est à une cinquantaine.
D'accord.
J'ai pas de chiffre exact.
Sur Grenoble.
Ouais.
Ok. Ah, c'est un bon groupe.
Oui, c'est un bon groupe. On est une vingtaine à peu près à chaque entraînement.
Ah ouais.
Donc ça fait de quoi bien s'amuser.
Bien s'amuser, ouais.
Et puis surtout, tout niveau, en fait, ça, c'est un truc qu'on arrive bien à faire. C'est que autant il y a des personnes qui ont déjà fait du foot en club pendant leur enfance, mais il y a aussi des personnes qui arrivent aux flammes et qui n'ont pas touché un ballon de leur vie. Je dirais pas ça, ouais. Mais très rarement, quoi.
D'accord. Ah, c'est génial.
Et le but, c'est de pouvoir se retrouver. Tout niveau
autour d'un ballon, ouais. C'est chouette. Et vous avez rencontré des résistances à cette initiative, des critiques ou des difficultés?
Je dirais pas tant, enfin, je peux pas trop te dire l'historique. Moi, je suis arrivée quelques mois après la création du FLAM.
Okay.
Résistance, je sais pas si c'est le mot. Je dirais plus des incompréhensions.
D'accord.
Souvent, il y a, en fait, quand on explique rien que la mixité choisie à des hommes cisgenres, mais c'est choc.
D'accord.
Et parfois, c'est assez violent. En fait, la façon qu'ils ont de réceptionner ça, c'est comme... Enfin, je pense que pour eux, c'est un sentiment d'exclusion, quoi.
Ouais.
Et... Mais en fait, en expliquant un peu le pourquoi
de ça... D'où ça vient, en fait.
Eh ben, on sent que ce sentiment-là, il s'estompe un peu. Mais la première réaction, c'est vraiment...
Ouais, forcément.
Assez violent. Bon, après ça, on n'y fait pas trop attention parce que nous, on a toute conviction en ça et on est certains et certaines que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est plutôt incompréhension. Et après, oui, ça nous arrive. On arrive le jeudi soir sur le stade et en fait, souvent, il y a déjà des hommes qui sont en train de s'amuser, de tirer, enfin, faire des tirs ou quoi. Et en fait, c'est compliqué, encore une fois, d'arriver et de dire, en fait, nous, on a ce créneau, on le paye, on est une association, on est légitime à être là. Donc, est-ce que vous pouvez...
Ouais, là, quand même, c'est exagéré.
Ah ouais. Là, t'as un créneau qui appartient.
Qui soutient.
Non, là, quand même, là, je ne suis pas d'accord, là, tu vois.
Oui. Ouais, mais tu vois, tu parlais d'exclusion tout à l'heure. Je vais te raconter un truc, Sana. Voilà, j'ai habité en Irlande du Nord pendant très longtemps et je suis arrivée, dans les premiers mois où je suis arrivée, bah, je voulais jouer au foot tout simplement et donc j'avais mon conjoint qui jouait au foot avec ses amis quoi. Et il savait que j'aimais le foot, hein. Moi le foot c'est ma vie, c'est ma passion. Et donc un jour il est parti jouer au foot avec ses amis, et je peux venir, il m'a dit ah bah y a personne qui ramène sa copine. Tu vois le sentiment d'exclusion? Tu le sens là? De quelqu'un avec qui tu es censé être en
oui,
couple,
mais
tu vois.
Est-ce que c'était pas pour te protéger? Je sais pas, même si derrière, tu vois, c'était pas bien.
C'est tellement patriarcal.
C'est sûr, c'est ça qui t'a répondu, tu le sais.
Je sais ce que c'est que jouer au foot, c'est je vrai, demande à y aller. Voilà, j'ai joué des années, des années.
En fait, avec tout ce que vous dites maintenant, tu vois, ça m'a fait réfléchir aussi, tu vois. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup le foot, j'ai beaucoup joué là-dedans. Voir les filles jouer au foot, bon, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude de le voir quand même souvent, quand même quoi. C'est partout, hein, c'est pas juste ici seulement. En Afrique, là-bas, dans le village, c'est encore pire. Ouais, tu vois, là-bas, donc, c'est les femmes, même qui ne veulent pas les femmes à jouer au foot. Tu vois?
Ah oui, d'accord. Entre elles.
Voilà, entre elles, quoi. Parce que, en fait, parce qu'il y a tous ces arguments culturels qui sont là. La femme, elle doit être ceci, elle doit être comme ça, elle doit être ça. Donc, voilà, moi, en tout cas, ça fait plaisir de voir ailleurs aussi, il y a des filles, des femmes qui sont là, qui se battent pour ça, tu vois, d'où le 8 mars, tu vois. Ouais. Moi, le 8 mars, des fois, je prends mon micro, je vais dans les rues, je fais des interviews par rapport à ça, tu vois. Et quand je vois les femmes d'ici, comment elles parlent, je me dis, non, là, il y a un gros problème, il y a un gros écart quand même, tu vois. Mais là, à travers tout ça, moi, je voulais poser une question quand même. Vous, en tant que fille, vous avez joué au ballon. Voilà, vous êtes aussi professionnel dans l'accompagnement et tout. Est-ce que le fait d'être une équipe féminine et d'être entraîné par un homme, est-ce que c'est gênant en fait?
Alors moi, j'ai eu joué dans un club donc féminin et j'avais un coach masculin. Et c'est vrai que, alors des fois, on a eu du mal. Enfin moi, j'ai eu du mal, ne serait-ce que par l'intimité. Enfin un homme qui rentre sans prévenir dans un vestiaire. Ça, c'est non.
Okay.
Enfin, rien que par ça, tu vois. Moi, qui un homme me donne des ordres, il me donne des ordres. Il est légitime dans son positionnement, en tant qu'entraîneur. Il est là, il a son expérience, il n'y a aucun souci. Quand il y a des limites qui sont franchies, là, il y a un problème.
Okay.
Voilà. Bon. J'aurais moins de mal, par exemple, une femme qui rentre dans un vestiaire.
Est-ce que peut-être, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'on voit beaucoup d'équipes féminines quand même.
Ouais.
Dont les entraîneurs, les dirigeants, c'est que des hommes.
Ouais.
Tu vois. Et c'est comme ce que tu as dit, tu es dans les vestiaires et tout, c'est normal, l'entraîneur, il vient, il rentre. Voilà. Je sais pas.
Faudrait leur demander, ça. Faudrait inviter l'Olympique Lyonnais féminin.
En tout cas, ouais,
j'ai essayé, j'ai pas réussi. D'accord. Non, mais ouais, non, c'est sûr, c'est des questions qui se posent. En fait, peut-être qu'elles se posaient pas avant. Et en fait, non, c'est pas normal. On a laissé passer trop de choses qui ne sont pas normales.
Mais je pense aussi que on a ces choses-là existent aussi vis-à-vis de sportifs masculins, mais qu'on n'en parle pas parce que il y a aussi dans ce qu'on dit hein, les codes, voilà, stéréotypés, la croyance erronée qu'un homme ne peut pas être victime de violences sexistes et sexuelles. C'est totalement faux. Juste pour vous donner une stat en milieu professionnel, 30% des hommes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. 30%, c'est énorme. Et quand on regarde la méthodologie, quand on leur a posé la question au départ, à 96%, ils ont dit que non, ils n'en étaient pas victimes. Donc je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de la société en général, mais aussi des personnes.
Que les victimes eux-mêmes ne pensaient pas avoir été victimes.
Bien sûr. Alors on le voit chez les femmes, mais depuis plusieurs années, avec les mouvements de libération de la parole, la prise de conscience se fait. Mais je pense que, tout à l'heure tu parlais de gros chantier, je pense que les hommes, ça fait partie du chantier, c'est-à-dire sur le fait de prendre conscience d'un certain nombre d'agissements dont ils ont pu être victimes, et si on ne sait pas qu'on en est victime...
C'est comme un raciste aujourd'hui, tu vois. Moi je vois quelqu'un qui est raciste, je me dis qu'il est malade, qu'il a un problème, il est rester coincé dans c'est pareil. En fait, c'est déjà, ils ne se rendent pas compte de leur maladie, quoi. Mais c'est une maladie.
Et en plus, c'est le même fonctionnement. Le sexisme, le racisme, l'homophobie, c'est les mêmes mécaniques, les mêmes rouages, en fait.
C'est fou, hein. Et du coup, cette mixité choisie, qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'épanouissement, en fait, pour les personnes qui sont dans votre association?
Je pense que ça apporte surtout un bien-être et ça enlève de la charge mentale en fait.
Ouais.
Notamment si on y réfléchit en fait pour les personnes transgenres, elles n'ont absolument pas leur place dans des clubs. C'est un non-sujet qui pour moi est aberrant en 2025 quoi. Enfin je veux dire. À un moment donné, les personnes transgenres existent dans la société et en fait, elles ont leur place au même titre que les personnes cisgenres et elles ont également leur place dans les espaces sportifs. Et donc, la mixité choisie leur fait une place dans un endroit où en fait, il y a pas d'injonction à la binarité de genre. Enfin voilà, on essaye d'être attentive et attentif là-dessus.
Ouais, il y a beaucoup de, facteurs, en tout cas en France, hein, je parle de la Fédération française de football, qui élimine un petit peu la possibilité de pratique pour certaines personnes, et c'est vrai que les personnes transgenres en font partie,
ouais,
donc c'est un vrai problème. On a vu récemment, je fais le lien un petit peu, on parlait de discrimination, etc. On a vu que le Sénat a voté une loi, elle n'a pas encore voté parce qu'il faut encore qu'elle passe à l'Assemblée nationale, mais sur la laïcité dans le sport. Et donc maintenant, ça devient au niveau du législateur de décider. Avant, c'était au niveau des fédés. Les fédérations elles-mêmes décidaient dans quelle mesure une femme qui porte le voile pouvait jouer ou pas. Ouais. Maintenant, c'est le législateur qui décide et qui dit bah, en fait, c'est toutes les fédérations.
On a vu à la Coupe du Monde féminine, il y avait des équipes où, comme il n'y avait pas de problème, les filles elles jouaient avec leur foulard.
C'était
des très bonnes joueuses.
C'est dans quelle mesure on crée une société qui exclut les personnes pour quelque raison que ce soit. On parle de laïcité, on parle d'identité de genre. Voilà, dans quelle mesure on a envie de vivre dans une société qui interdit aux gens de pratiquer du sport.
Si on veut que ça soit, et qu'elle soit harmonieuse en tout cas, que tout le monde se sente que c'est ma société, en fait, il faut que les règles s'appliquent à tout le monde, les mêmes règles.
Exactement.
Quoi, en fait. Mais pas des règles des autres pour les imposer à l'autre partie, non.
Ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on fait passer la laïcité. Enfin, je trouve que c'est vraiment instrumentaliser la laïcité pour faire des réformes hyper excluantes. Bon, là, c'est plus, enfin, principalement islamophobe. Mmh. Mais, enfin, et moi, je me dis, mais comment ils instrumentalisent tout ça et, enfin,
quelle tristesse. Moi, ça me rend triste.
Faut questionner, quoi. Je veux dire, c'est quoi la laïcité? C'est juste la tolérance et la compréhension, le respect des autres. Point. Mmh. On te demande pas de juger. Enfin, bon.
Non, mais c'est, en plus, surtout, c'est que c'est illégal. C'est-à-dire que la discrimination indirecte, c'est interdit, en fait. Dans le code pénal, c'est très clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc après, si cette loi, elle venait à être validée, prise effectivement, j'espère quand même qu'il y aura un groupe de sénateurs ou de parlementaires qui va la déférer au Conseil constitutionnel. Ça serait bien. Parce que effectivement, ce genre de lois-là sont extrêmement inquiétantes pour les droits fondamentaux.
Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va terminer sur une note positive quand même, parce que bon, c'était un peu lourd ce sujet.
Non, mais c'est, pour moi, tout est positif.
Voilà,
c'est
non, tout est positif.
Parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi, en tout cas, avec vous.
C'est génial.
Très
mais voilà, l'idée aussi, c'est de mettre un petit peu en avant ces problématiques-là, mais surtout de dire qu'au final, le sport féminin, le foot féminin, et plus, hein, quand je dis féminin, c'est pour ça que notre championnat il s'appelle championnat féminin et inclusif.
Okay.
Voilà. c'est quand même ça illustre un petit peu l'engouement. Il y a de plus en plus de petites filles qui veulent jouer au foot. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent au foot à tout niveau. Il y a des clubs qui maintenant ont des sections loisirs qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'on peut vouloir jouer dans un club et pas vouloir jouer en compétition. C'est possible, hommes comme femmes, hein, tout le monde. Hein. Mais il y a un engouement pour le foot. Chez les femmes nous on est là aussi pour mettre en garde un petit peu sur tous les problèmes que ça peut poser, mais je sais pas si vous avez un dernier mot, votre vision pour le futur du foot féminin
et inclusif. Non mais en tout cas merci beaucoup pour ce temps, c'est vraiment chouette d'aborder ces sujets là. Et puis, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont intéressées pour faire du foot, et on va sûrement se lancer sur d'autres sports également, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur Instagram, notamment, le Flam, F-L-A-M. 38.
Il va falloir changer le nom, alors.
Ouais. Oui.
Si c'est pas que du foot. C'est vrai. Dans Flam, c'est foot.
C'est vrai, faut enlever. Bon, on va réfléchir à ça.
Donc, vous êtes sur les réseaux Instagram et Facebook.
Je ne suis pas sur Facebook, mais Instagram, flamme ou alors par mail flamme.grenoble@gmail.com.
Ok, super.
Pour venir nous voir à 18h à Bachelard le jeudi soir.
Super, merci Manon. Coraline.
Et si vous avez besoin de former vos équipes,
tout à fait.
Vous pouvez nous retrouver, donc Projet Callisto, on est sur Instagram, et sinon sur LinkedIn, vous pouvez nous contacter directement.
Voilà, super. Eh bien, merci.
Merci
à vous.
Merci beaucoup à vous.
C'est tous. Merci Sana. Et on se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain, waouh, c'est loin même, parce que ça se passe tellement bien.
Ça arrive vite. Ça arrive.
Merci en tout cas, merci les filles. Continuez tout ce que vous êtes en train de faire. C'est très très intéressant. C'est des actions comme ça, chacun le fait de son côté. Et puis voilà, ça donne, ça met en lumière tout ce que les gens ils veulent pas qu'on voit en fait. Donc voilà, merci beaucoup. À la prochaine sur les ondes de News FM.
News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.